Bonsoir. 12 personnes ont trouvé la mort et 15 autres enlevées dans une incursion des présumés EDF samedi dernier au quartier Boïkéné dans la ville de Beni au nord Kivu. Selon la société civile, ces rebelles ont pillé toutes les boutiques et pharmacies au niveau du petit marché des Mayangosé avant d'être repoussés par les FRDC, appuyés par les forces de la MONUSCO. De son côté, la population avait réagi par des manifestations de colère sporadiques. Comment analyser ce énième massacre? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec Maître Nixon Kambalé. Il est membre du groupe de travail de la société civile sur la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il est aussi coordonnateur de l'ONG Centre pour la gouvernance. Bonsoir Maître Nixon Kambalé. Voilà, il va nous rejoindre. Lui, il est ici au studio, c'est Maître Jean-Maubert Senga. Il est chercheur à Amnesty International. Bonsoir Maître Jean-Maubert Senga.
Bonsoir Guy Maté.
Et Didier Bitaki, expert en droit international humanitaire, il est aussi spécialiste en désarmement. Bonsoir, monsieur Didier Bitaki.
Bonsoir à tous et bonsoir à vous, Kabamba, ça fait longtemps.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
12 morts, 15 personnes enlevées, c'est le bilan de l'attaque de samedi dernier en cellule Matete au quartier Boïkéné en ville de Beni. C'est Kombi Katondolo pour les détails.
C'est vers 19h de samedi qu'un groupe de présumés rebelles de l'ADF a fait incursion dans la cellule de Matete au quartier Boïkéné en pleine ville de Beni sur la nationale numéro 4. Selon la société civile de Beni, ces rebelles ont pillé toutes les boutiques et pharmacies au niveau du petit marché dit de Mayangosé avant d'être repoussés par les FARDC appuyés par les forces de la MONUSCO. Pour l'instant, on parle de 12 personnes tuées et de 8 autres enlevées, dont des femmes et plusieurs enfants. Signalons que des manifestations de colère sporadiques des populations de ces quartiers ont suivi cette attaque où les véhicules de la MONUSCO et autres humanitaires ont été caillassés et des pneus brûlés sur la chaussée. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Le porte-parole FRDC des opérations Sokola 1 Nord s'est dit désolé de la nouvelle attaque terroriste qui a provoqué les soulèvements de la population le dimanche à Beni. D'après le capitaine Mac Azoukai, les FRDC ont entamé depuis la nuit du samedi la fuite des traces des criminels qui ont tué plus de 12 personnes et kidnappé 15 autres à Beni. Joint par Radio Capi, le porte-parole FRDC des opérations Sokola 1 Nord appelle la population de Beni au calme et lui demande de se souder pour combattre les terroristes qui n'épargne personne. Capitaine Mac Azoukai est joint depuis Kinshasa par Askin Zigia Toyoro.
Nous sommes désolés pour ce qui est arrivé. L'ennemi a de nouveau contourné, notamment nos positions, et il a commis un autre crime, ce qui nous désole sincèrement. Nous comprenons la population de Beni qui est meurtrie. C'est une occasion de nous souder les coudes pour réagir efficacement face au terrorisme. La menace est réelle. Et je ne pense pas que ce sont des villes mortes, des manifestations, des casses, des insultes qui vont nous amener à la solution. Nous devons nous parler, nous devons être soudés. Nous avons toujours dit que nous ne pouvons pas gagner une guerre contre les terroristes sans avoir l'appui de la population. Le terrorisme est un casse-tête chinois pour toutes les armées et pour tous les services de sécurité du monde. Nous aussi, nous enregistrons des victimes de cette menace. Donc, la population a compris cela. Voilà pourquoi, même dans les manifestations, on ne menace pas l'armée parce que nous sommes tous victimes.
Merci Maître Jean-Maubert Senga, chercheur à Amnesty International. 12 personnes tuées et 15 autres enlevées samedi dernier au quartier Boïkéné dans la ville de Beni. Et comment vous analysez cet énième massacre?
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi et merci de m'avoir invité à nouveau sur vos antennes. Ce qui se passe à Beni dépasse tout entendement. Ça dure 4 ans maintenant. Les condoléances, la colère, on ne sait même plus dans quel mot les exprimer. Le décompte macabre continue. Là, on parle de 12 personnes Il y a quelques semaines, c'était plus de 20 personnes. Il y a quelques semaines, c'était d'autres et d'autres. On ne compte même plus les kidnappés, les personnes déplacées. Il y a aujourd'hui toute une commune de Béni qui a été vidée de ses habitants. Il y a toute une partie du territoire de Béni également qui a été vidée de ses habitants. Et à cela, à tout cela s'est ajouté une terrible épidémie d'Ebola. L'analyse que l'on peut faire, c'est que les autorités congolaises et les forces de la MONUSCO sont incapables de rétablir la paix à Béni. Mais avant même de rétablir la paix, elles sont incapables de dire clairement qui sont les auteurs, qui sont les responsables de ces massacres répétés. L'autre chose que l'on peut dire, c'est la colère de la population, l'exaspération, qui est compréhensible par ailleurs. Les violences, personne ne peut les souhaiter, personne ne peut les encourager, mais au moins on peut les comprendre. Une population qui est massacrée de manière systématique depuis 4 ans, sans que personne ne puisse leur apporter du répit, sans que personne ne puisse leur dire clairement c'est qui ces auteurs et pourquoi ils les massacrent, on peut comprendre son désarroi et sa colère.
Voilà, donc vous dites que la FARDC ainsi que la MONUSCO sont incapables, n'est-ce pas, de rétablir la paix dans cette partie du pays, et ils sont aussi incapables de dire qui sont les véritables assaillants. Comment vous expliquez cela après 4 ans?
Justement, je ne me l'explique pas. Tout comme n'importe quel habitant de Béni ou n'importe quel analyste, je suis curieux de savoir si parmi les co-débatteurs ce soir, il y en a un seul qui peut expliquer pourquoi cette incapacité. Je fais juste ce constat et je pense que c'est une situation qui ne doit plus durer, qui a trop duré, et les responsabilités excusez-moi, les responsabilités doivent être prises pour y mettre fin. Ça, c'est trop.
Les ZDF portent plusieurs noms actuellement. Ils se font appeler MTM, MDN. Ils auraient même des ramifications, n'est-ce pas, à l'intérieur du territoire des Béni. Une véritable nébuleuse.
Toutes les recherches qui ont été faites jusqu'ici, depuis 2014, les recherches indépendantes, je vais dire, au-delà de la propagande politique et des déclarations des politiciens, n'ont pas pu établir clairement l'identité de ces auteurs. Il est indéniable qu'il y a des rebelles ougandais dans ces territoires, mais ils sont là depuis la fin des années 80, et les massacres et les kidnappings ont commencé seulement maintenant. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est des rebelles ougandais qui sont censés militer contre le gouvernement ougandais et pas contre la population congolaise ni le gouvernement congolais. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les noms et les autres groupes dont on parle, on sait bien comment les groupes pilulent dans l'est de la RDC, et parfois c'est juste trop facile de cibler et de citer le nom d'un groupe qui est le plus connu, mais qui par ailleurs n'a jamais, à ma connaissance, revendiqué les attaques ni dit pourquoi il s'en prenait à la population civile.
Alors la question à EDF ne dépasse-t-elle pas les frontières nationales? Les EDF n'ont-elles pas des connexions à l'étranger?
Justement, moi je refuse de débattre ce soir des EDF, parce que ce serait admettre que ce sont les EDF qui commettent ces massacres. Je voudrais que les autorités le prouvent en premier lieu, que le gouvernement et la MONUSCO qui est son partenaire puissent le prouver. Jusqu'à présent, on a entendu des déclarations, on a vu quelques personnes arrêtées, certains ont été condamnés, mais la plupart se sont évadés quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu comme la plupart de Congolais que ce sont des EDF. Le fait est que la seule chose qui est indéniable, c'est qu'il y a plus de 1000 civils, femmes, hommes, enfants, qui ont été sauvagement massacrés depuis 4 ans et que ça ne s'arrête pas. Ça, c'est un fait.
Ce ne serait pas les EDF, ce serait qui à votre avis?
Qui qu'il soit, en tout cas, moi, le débat que mon argument et mon plaidoyer, c'est que ça s'arrête, quelle que soit l'identité des auteurs. Il y a des rapports qui ont mis en cause, des rapports crédibles par ailleurs, qui ont mis en cause la responsabilité de certains officiers dans l'armée. Ils n'ont jamais été présentés devant un juge pour en répondre. Il y a d'autres sources qui ont parlé de combattants étrangers. Quel qu'il soit, premièrement, il faut que ça s'arrête. Et en deuxième lieu, il faut que les responsables puissent être trouvés et présentés devant des juges crédibles dans des procès transparents et jugés pour ces faits.
Il faut que ça s'arrête comme vous le souhaitez, c'est le souhait de tout le monde. Et comment une telle situation peut s'arrêter lorsque on se rend compte que les pays d'origine, n'est-ce pas, de ces ZDF restent passifs? L'Ouganda est resté passif. Et comment vous expliquez cette passivité?
Mais les gens qui sont tués, ce sont des Congolais. Les faits se passent sur les territoires congolais. Donc on ne va pas ici blâmer l'Ouganda, même si au niveau politique, il revient au gouvernement de dire et de savoir avec qui il s'associe, avec qui il parle pour résoudre le problème. Si vous vous placez, vous et moi, on se place à l'endroit de cette population de Béni, tout ce qu'elles veulent, c'est la paix. Avec qui vous la faites, que ce soit les Ougandais ou les Israéliens ou je n'en sais qui, je n'en sais rien. L'essentiel, c'est que la paix soit rétablie. Et jusqu'à présent, les autorités ont échoué à rétablir la paix. Parler de terrorisme ou de toute forme de rhétorique qu'on va utiliser, ça ne règle pas les problèmes, ça n'arrange pas la situation de la population.
Un phénomène auquel on assiste actuellement, c'est la justice populaire. Et les habitants ont tendance à s'y rendre justice en s'apprenant, n'est-ce pas, aux personnes qui ne sont pas connues dans la ville, les considérant comme des ZDF. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout dérapage?
Mais ce qu'il faut faire, c'est rétablir la paix. C'est dire à ces gens, voilà, on a Jamil Mukulu, il a été arrêté en Ouganda, en Tanzanie, il a été transféré en Ouganda. On a entendu les autorités congolaises dire qu'elles ont demandé, la société civile a haussé la voix pour demander qu'il soit extradé en RDC ou à la limite qu'il réponde aussi des actes commis, prétendument commis par les ZDF sur le territoire congolais. On n'a pas vu beaucoup d'investissement de la part du gouvernement, des autorités congolaises pour que cela soit fait. Donc, pour la population congolaise, qu'elle soit aujourd'hui en train de trouver aussi des chemins, des réponses faciles, parfois la violence, par la colère, par le répit et les dépits à cause de tout ce qui lui arrive, je dis que c'est compréhensible, c'est dommage, mais c'est compréhensible. N'importe qui mis dans cette situation pourrait arriver à des extrêmes.
Merci, Maître Nixon Kambale. Bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes membre du groupe de travail de la société civile sur la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous êtes aussi coordonnateur de l'ONG Centre pour la gouvernance. Et l'on vient de commémorer le 2 octobre dernier, le début des massacres de Béni. C'était le 4e anniversaire, n'est-ce pas, de ces massacres. Et depuis ce 2 octobre dernier, il y a eu une série de massacres, notamment en Dadi, à Béniville, à Maïmoya, et samedi dernier, c'était à Boïkéné. Comment vous comprenez ce qui se passe à Béni depuis 4 ans?
Merci Guy. Avant toute chose, laisse-moi d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu les leurs et à l'ensemble de la population de Béni et aussi à la population du Nord Kivu en général. Je crois que mon collègue Robert
Mobersenga
qui est là, il a bien circonscrit le problème. C'est que personne ne peut comprendre comment pendant quatre ans, jour pour jour, on massacre, on tue, on fait ceci, on fait cela, et l'armée, les autorités reviennent toujours à la même rhétorique, soit des ADF, soit de ceci, soit de cela. Et moi, comme lui, je me refuse de dire, de débattre aujourd'hui des ADF ou de quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un problème sérieux qu'on doit s'interroger sur l'efficacité des politiques publiques de défense. Ou alors, se demander comment, pendant 4 ans, l'armée ou les forces de sécurité congolaises n'ont pas pu ne fût-ce qu'identifier clairement et de manière claire les auteurs de ces massacres-là. Et là, c'est ça, c'est tout ça le problème. Qu'on puisse les qualifier de terroristes, de ceci ou de cela, mais la première chose pour tout système de défense, c'est d'identifier d'abord clairement l'adversaire, avec qui on se bat, et quels sont ses moyens de comment il attaque. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, Je suivais encore lorsqu'on a attaqué le 9 septembre la localité d'Engadi, la localité d'Engadi et de Djouban. Les porte-parole de l'armée disaient que ils étaient en train de comprendre ce qui s'était passé. Personne ne peut réaliser que pendant 4 ans, l'armée continue à chercher à comprendre.
Selon la société civile, l'attaque de samedi dernier à Boïkéné, dans laquelle 12 personnes ont été tuées et 15 personnes enlevées, les assaillants, pendant qu'ils tuaient, ils se livraient, n'est-ce pas, au pillage des boutiques et pharmacies. Et donc, ils ont eu le temps d'opérer, même s'ils ont été repoussés plus tard. Et du coup, ils se posent cette problématique, cette question de la rapidité, n'est-ce pas, dans les interventions des forces de sécurité. Vous attribuez tout cela à cette difficulté qu'ont les FRDC à pouvoir identifier les véritables assaillants?
Et là, ça pose un véritable problème, évidemment, de la capacité de riposter contre les assaillants. Si les assaillants peuvent arriver à pied, d'abord, on doit se poser la question, l'attaque a duré de quelle heure à quelle heure? Lorsqu'on raconte que ça durait de 19h jusqu'à très tard, et qu'ils ont eu l'état de pied, ça laisse à penser que effectivement à face il n'y avait personne et qu'ils ont pillé à toute quiétude, et comme un voleur qui entre à la maison, il ne trouve personne, il emporte le bien comme il veut. Mais et là ça pose un problème véritable du système de défense, et c'est comme ça que la population s'interroge finalement, cet assaillant qui doit chaque fois venir opérer, tuer. Et on ne voit pas à face une riposte. Et c'est le lendemain qu'on apprend que, et du côté de la MONUSCO, et du côté de l'armée congolaise, on apprend qu'on a repoussé. On a repoussé qui? Et je vais préciser une chose. Lorsqu'on nous dit que les assaillants étaient lourdement armés, personne n'a jamais été lourdement armé. Lorsqu'on parle d'une armée lourde, de personnes qui sont lourdement armées, donc ils étaient porteurs d'armes lourdes. Comment on peut ne pas arrêter quelqu'un qui porte sur lui une arme lourde? Comment cette personne peut arriver à fuir et ne pas l'attraper? Ce sont les questions que tout le monde se pose. Et la population est dans son droit, évidemment, à s'interroger, finalement, quel est le véritable assaillant?
Dans un communiqué publié le 18 octobre dernier par le commandant secteur opérationnel de l'opération Sokola 1, il est dit que le Grand Nord fait face à un terrorisme, et en plus des groupes armés qui sévissent dans Bénin, notamment les EDF. Les commandants FRDC parlent d'un mouvement des hors-la-loi appelé Mai Mai. Maître Nixon Kambalé, peut-on dire que plus la situation perdure, plus les EDF sont en train de créer des ramifications avec comme objectif de rendre inefficaces les opérations des forces de sécurité?
D'abord, il faut dire une chose. Si l'accord cadre a été signé, il y a un volet important sur la question de la présence des groupes armés ou de la sécurité de la partie orientale du pays. Donc, et lorsque l'accord cadre a été signé, et il a été demandé à ce qu'on puisse renforcer la capacité opérationnelle de contingent de la MONUSCO avec la création d'une brigade. On a vu ce que la synergie a apporté dans l'éradication, au moins dans le débâcle qui a amené à mettre fin à ce qu'on a appelé le M23. On s'interroge comment la même stratégie, la même synergie ne doit pas être mise en œuvre pour éradiquer les autres groupes armés. Ces groupes armés, les Mai Mai, les FDLR et les autres, ils ne sont pas différents du M23 qu'on avait éradiqué en moins de 2 mois, 3 mois. Et pourquoi seulement à Bénin, ça dure pendant 4 ans? Est-ce que c'est seulement parce que les Maïmaïs sont là?
Il a dit que le M23 utilisait, n'est-ce pas, la guerre classique, tandis que les EDF utilisent une guerre qui asymétrique.
Et les Maïmaïs utilisent quelle guerre?
Asymétrique comme les EDF.
Donc les Mai Mai sont plus performants à stratégie asymétrique plus que les M23. Les Mai Mai qui combattent avec des flèches et ceci ou cela. C'est contradictoire quelque part.
Voilà, les FARDC annoncent qu'ils envisagent des attaques de grande envergure. Et de son côté, les commandants forces de la MONUSCO a annoncé lundi dernier à Goma qu'il y a des unités spéciales déployées aux alentours et à l'intérieur des Beni. Est-ce que vous pensez que ces annonces suffisent pour rassurer les habitants de Beni?
Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on annonce les attaques avec pompe, avec ceci, avec cela. Souvenez-vous, ces jours, on débattait ici sur les attaques, encore lorsqu'on avait eu à attaquer la prison de Kangwai, et ainsi de suite. Et au lendemain de ça, on avait annoncé avec pompe des contre-attaques, et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela a donné? Donc jusque-là, on ne sait même pas évaluer les actions qu'on a pu entreprendre à un moment donné pour savoir là où il y avait des failles et là où il n'y avait pas de failles et voir comment corriger. Et surtout que lorsque on rapporte souvent que certaines attaques arrivent après que les populations aient alerté sur la présence des personnes qui suspectent. Et là, ça pose un problème sérieux. Et lorsque ces attaques visent même les positions stratégiques de l'armée, comme le cas dernier à Taliata, alors ça, on s'interroge finalement, bon, et pendant que on sait que la position avancée des forces armées se trouverait du côté de Nyaleke et ainsi de suite, ça pose problème.
Merci Didier Bitaki, expert en droit international humanitaire. Vous êtes aussi spécialiste en désarmement. Massacre de Beni, ça se passe quasiment chaque semaine depuis 4 ans. Quelle est votre lecture, Didier Bitaki? Apparemment, Didier Bitaki n'est pas là. On va tenter de les rappeler. Maître Maubert Senga, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Mahomet de Bukavu au sud Kivu. Ce énième massacre de Beni veut tout simplement dire que la situation sécuritaire continue d'empirer dans cette partie de la RDC. Mais là où la situation sécuritaire laisse à désirer, c'est en principe là où le gouvernement devrait porter toute son attention. Apparemment, ce qui n'est pas du tout le cas de Beni et même des autres coins insécurisés de la RDC. Je pense que remédier à cette situation appellerait nécessairement le gouvernement congolais soit à renforcer davantage ses services de sécurité tant civils que militaires, soit carrément à les réformer sérieusement. Et la cause n'étant pas seulement endogène, il faudrait que le gouvernement congolais arrive à revoir sa coopération sécuritaire et militaire avec les pays voisins. Dans les cas d'espèce, beaucoup plus avec l'Ouganda et le Rwanda qui seraient d'une manière ou d'une autre très impliqués dans la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la RDC.
Maître Maubert Senga.
Je partage l'opinion de l'auditeur de Bukavu en grande partie. Ce qui est clair, c'est que la continuité de ces massacres la continuité de ces massacres traduit l'échec des autorités congolaises à tous les niveaux. Les autorités locales, l'armée, la police, les services de renseignement, le gouvernement, même le Parlement qui a un rôle pour contrôler. Depuis 4 ans, combien de ministres de la Défense ont été entendus, qui ont démissionné, qui ont rendu des comptes sur ce qui se passe à Beni? Combien d'officiers, généraux, commandants des opérations ou je ne sais qui ont comparu devant les commissions de l'Assemblée nationale et qui ont répondu de leur incompétence carrément ou de leur complicité ou de leur échec à rétablir la situation? Je n'en connais pas. Il y a eu des missions parlementaires, tout récemment il y en avait encore une autre, et puis on revient, c'est les mêmes histoires, on va là-bas, on revient, on fait des discours, et puis c'est fini. Donc les parlementaires, y compris les parlementaires du Nord Kivu, mais aussi de toute la République, parce que Beni c'est le Congo, ils ont aussi une responsabilité grave dans ce qui se passe. Sur la coopération avec les pays voisins, comme je disais, il faut arrêter de pointer du doigt les autres en permanence. Ceux qui sont tués, ce sont des Congolais. Les faits se passent sur les territoires congolais. Ceux qui doivent résoudre les problèmes, ce sont les autorités congolaises. Avec qui elles vont s'allier, c'est à elles d'en décider. Et si cela ne se passe pas, c'est leur faute. Ce n'est pas la faute de l'Ouganda. Ce n'est pas la faute du Rwanda. Moi, je refuse de m'entraîner sur ce terrain-là. c'est leur responsabilité ou leur irresponsabilité et cela doit être acté.
Et vous pensez que le gouvernement congolais n'a jamais tenté d'impliquer des pays voisins dans la traque contre les EDF?
Moi, je pense que le gouvernement a une obligation de résultat, ce qu'on appelle en droit une obligation de résultat. Ce n'est pas les moyens, ce n'est pas, on ne va pas compter les discours, le nombre de fois où on a envoyé tel général de l'armée ou le chef de l'État lui-même a fait des déplacements là-bas. Ou c'est pas ça qui compte, c'est pas ça, pas du tout. Ce qui compte, c'est qu'il y a un massacre, il y a une infraction, il y a une rébellion et les autorités prennent des mesures, toutes les mesures possibles, militaires, civiles, politiques, diplomatiques, et ça s'arrête.
L'obligation des résultats passe aussi, n'est-ce pas, par cette coopération qu'on entretient avec les pays voisins. Mais parce qu'en fait, la menace est à la frontière. Cela veut dire que cette menace pourrait un jour s'étendre à d'autres pays. Donc, les pays voisins ont aussi l'obligation et les devoirs de pouvoir se préoccuper de cette situation.
En 4 ans, combien de fois avez-vous entendu dire que les ADF, les soi-disant ADF, ont mené une attaque en Ouganda, qui est juste à côté de l'autre côté de Beni? Combien de fois? Donc, ce qui préoccupe les Congolais, la maman qui nous écoute à ce moment depuis sa cachette à Beni, ou le jeune qui est à Oicha, ou je ne sais dans quelle autre partie, c'est que ces massacres cessent. Et ceux qui ont la responsabilité de le faire, c'est en premier lieu les gouvernements, les autorités congolaises.
Merci.
C'est ceux-là qu'il faut interroger.
Merci. Didier Bitaki, vous êtes là? Allô, Didier Bitaki?
Je suis là, oui, je suis là.
Voilà, je rappelle que vous êtes expert en droit international humanitaire et vous êtes aussi spécialiste en désarmement. Et les massacres de Beni, ça se passe quasiment chaque semaine depuis 4 ans. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation?
Oh, merci beaucoup de m'inviter à ce débat encore une fois. Tout d'abord, je m'incline devant la mémoire de tous les compatriotes qui sont tombés sous le fait de l'ennemi, que je considère comme ennemi interne monté de toutes pièces. Et ensuite, toute ma compassion, ma pensée pour ces familles qui sont sinistrées, touchées d'ailleurs, par les affres de cet aventurisme qui n'a pas de nom. C'est inqualifiable. Alors, l'analyse à faire par rapport à la question, je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas donné mon avis par rapport à ce qui se passe à Beni, parce que tout simplement on a été mal écouté. Je crois bien, pour rappel d'ailleurs, parce que je n'ai plus le temps, en 2009 à Goma, je crois que c'était au mois d'octobre, j'avais rappelé au général Didier Etumba, à son temps chef d'état-major général des forces armées. C'était à l'hôtel Le Chalet. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas déclencher des opérations militaires contre les ADF tout en étant en cours d'autres opérations contre les FDLR. Et là, les Rwandais étaient sur le territoire congolais avec ces fameux 1200 officiers de renseignement qui ne sont jamais retournés au Rwanda et qui sont actuellement au sein des FRDC. Il en est conscient. Il s'est entêté, il a dit c'est possible. Parce que c'est une opération comme toute autre, telle que celle qui se déroule dans les territoires de Masisi, Walikale, Shabunda, Mwenga et Kalehe, la solution serait là. Il a quitté l'état-major général, il ne nous a jamais présenté un bilan de ces opérations. Par contre, avant qu'il ne quitte, je crois que ça devait être l'année dernière ou alors cette année-ci, il n'a actuellement ni le moindre FDLR, ou disons ADF, ni clarifié clairement que l'air était contre les FDLR. Parce que tout ce que nous savons est qu'il y a des présumés FDLR, mais on n'a jamais dit qu'il s'agit de plutôt ADF, mais on n'a jamais précisé qu'il s'agit des ADF. C'est-à-dire, ils doivent nous donner d'abord une explication par rapport à l'identité de ceux qui tuent, qui massacrent nos frères dans les territoires de Beni. Autrement dit, nous dirons qu'il s'agit de leur montage et je serai capable de les trouver. Ensuite, l'actuel commandant des forces armées, le général, le lieutenant général Mbala, je l'ai rencontré en 2010 à Goma, toujours après le massacre de Bussurundi. On a discuté, je lui ai donné des recommandations. Il s'est entêté lui également, tout en promettant qu'il devrait proposer au chef de l'État de commander, parce qu'il est le commandant suprême, de donner de nouvelles orientations pour qu'on arrête les opérations, pour qu'on cherche une solution. La conséquence est que personne n'a décidé et ça continue. Jusqu'en 2010. Donc, pour moi, je dis... Écoutez, c'est de l'aphérisme au niveau de Beni. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de rebelles. Les institutions, les autorités, elles-mêmes savent qui mène la guerre, qui et pour quel intérêt ils en tirent leur compte. Parce que ces présumés ADF n'ont jamais attaqué l'Ouganda. Ils sont à la frontière entre la RDC, disons, la province du Nord Kivu et le district de Kasese. Bundibugyo n'est pas à plus de 30 km de la frontière. Pourquoi ces ADF ne se sont-ils pas attaqués aux Ougandais pour tuer leurs frères ougandais de faire attendre les revendications au niveau de leur pays? Ça ne se fait pas. Pourquoi ils tuent les Congolais? Lorsqu'il y a une quelconque initiative locale tendant à vouloir neutraliser ces derniers, ce sont les FARDC qui se révoltent pour dire qu'il s'agit d'une provocation, il s'agit d'une menace, parce que c'est une affaire montée de toutes pièces. Les rapporteurs des bénéfices, ils ne veulent pas qu'une solution locale intervienne. Et pour cela, je vous en veux pour une preuve, à Walikale, à Masisi et dans le territoire de Shabunda, je ne pense pas avoir assisté à une opération militaire contre les raïs à Mutombo qui pensent qu'ils se révoltaient, contre les FDLR qui massacrent les gens. Et quand la population elle-même s'est révoltée, elle a fait partie des FDLR, on n'en parle plus aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que les FDLR montent-elles des opérations musculaires contre la population lorsqu'elle veut se prendre en charge, alors que ces mêmes FDLR ne sont pas capables de sécuriser celle-ci? C'est pour dire qu'au niveau de la hiérarchie, il y a une complicité qui descend jusqu'au niveau de la société. Vous savez, je ne vous parlais pas en tant que quelqu'un qui n'a jamais vécu la situation. J'ai été dans la région, j'ai eu à gérer des situations difficiles, militairement difficiles, contre des groupes rebelles extérieurs. Et je sais, c'est parti d'où pour qu'on en arrive à la situation actuelle. La complicité interne. Dites-moi, le gouverneur de province prononce un discours selon lequel... Attendez, je vais terminer. Le gouverneur de province prononce un discours selon lequel il arrête des mesures avec le Conseil provincial de sécurité pour sécuriser la population et les rassurer après avoir connu un massacre de 30 personnes, 34 je crois. Mais une semaine plus tard, il y a 12 personnes au nom desquelles aujourd'hui nous parlons. Alors où sont passées ces mesures qu'il a, lui, à ce niveau pris?
Didier Bitaki.
Ça fait honte.
Didier Bitaki.
Je crois que d'une certaine manière, oui, allô?
Oui, vous, n'est-ce pas, vous avez tenu des propos, je ne sais pas si vous mesurez, n'est-ce pas, ce que vous êtes en train de dire, et vous dites qu'il n'y a pas guerre, n'est-ce pas, à Beni, les autorités de Kinshasa savent ce qui se passe dans ces territoires, et vous dites que c'est une affaire montée et de toutes pièces, vous parlez des complicités, et donc, vous insinuez par là que, cette situation de Beni profiterait à Kinshasa, c'est ça?
J'assume ce que j'ai dit. Écoutez Alain, j'assume ce que j'ai dit.
C'est Guy Maté.
Si je parviens à le préciser, cette fois-ci je l'ai dit en termes clairs. Je l'assume. Je voudrais juste rappeler que, écoutez, il y a certains officiers actuellement portant des grades de généraux au sein des FADC. J'ai collaboré avec cette armée il y a longtemps. J'en ai contribué pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. La trahison est totale, avec la complicité de la hiérarchie militaire. Il y a des officiers portant des grades de généraux au sein des FARDC, j'en ai 5. Et le gouvernement ne va pas
Bitaki.
Me contredire pour ça.
Bitaki.
Qui existent tout en ayant appartenu aux ADF et NADO et qui sont actuellement généraux au sein des
Bitaki.
FARDC.
Didier Bitaki.
Alors comment est-ce que nous n'allons-nous pas parler?
Bitaki, voilà, vous maintenez votre position, vous continuez, n'est-ce pas, vous insistez sur le fait que il y aurait trahison, que la situation profiterait à Kinshasa. Et quel intérêt Kinshasa aurait à entretenir une telle situation où il y a chaque semaine des tueries dans sa population? Quel intérêt les gouvernements congolais auraient, n'est-ce pas, à entretenir une telle situation?
Je pèse le terme quand j'ai commencé par dire qu'il s'agit de l'affairisme. Et c'est qu'un affairisme, je crois que vous m'avez bien compris.
Merci.
Lors qu'il est parti de Rwenzori pour Kisangani et après Kinshasa, que le général Bauma et à son âme a failli dénoncer. En complicité, par contre, ça a été fait avec la complicité des autorités de Kinshasa. Cet or-là a servi à qui?
Merci. On a compris. On va vous redonner la parole, Didier Bitaki. On a compris. Maître Nixon Kambale, vous allez réagir à cette réflexion qui vient des Uvira au Sud Kivu.
Jimmy Faliala, depuis Uvira, dans la province du Sud Kivu. À mon avis, je pense que les FARDC doivent avouer à la population de bénir leur incapacité à éradiquer les rebelles et ADF et demander à cette dernière de se prendre en charge. Il est en général connu que la meilleure façon de mettre fin à une guerre, c'est prévenir la guerre. Comment comprendre que ces rebelles des ADF peuvent continuer à tuer la population pendant plus de 3 ans sans que des mesures efficaces de prévention ne soient prises? Comment les FARDC attendent toujours que ce soit les ADF qui attaquent pour les repousser? À quoi servent maintenant les opérations Sokola 1, 2 et etc.? Faudra-t-il rappeler que Sokola signifie nettoyer et non attendre les attaques pour réagir? Je pense que le phénomène ADF doit être tiré au clair par le gouvernement congolais, à commencer par donner le bilan des opérations Sokola.
Maître Nixon Kambale, et il est vous rejoint dans votre analyse, n'est-ce pas?
En fait, c'est le sentiment de toute la population. Si lui parle, il donne un avis qui est partagé par l'ensemble de la population. Parce qu'on ne sait pas comprendre comment, pendant 4 ans, effectivement, on est à la compréhension de moyens, du système, de mode opératoire de l'adversaire. Et c'est là les problèmes. Et pendant 4 ans, on a été presque dans l'incapacité de donner avec précision, de dire avec précision qui est l'assaillant.
Et vous avez suivi Didier Bitaki qui parle de l'affairisme. Est-ce que ça pourrait expliquer la persistance de cette situation?
Bon, l'affairisme, moi je pense qu'il revient au gouvernement d'assumer ses responsabilités. Et lorsqu'il y a des failles, c'est au gouvernement de déceler ces failles. Lorsque le troupe ne parvient pas à gagner une guerre, le gouvernement a plusieurs stratégies pour voir comment remédier à la situation. Et je crois que lorsque on arrive à dire qu'il y a affairisme, il y a ceci ou cela, c'est parce qu'évidemment on se rend compte que plus on débourse des fonds budgétaires pour aller là-bas, mais il n'y a pas de résultat. Et vous voulez que quelqu'un puisse dire quoi? Donc naturellement, on peut arriver à faire croire que évidemment cela permet à débourser des fonds publics, et ces fonds publics n'arrivent pas à réaliser l'objectif pour lequel ça a été déboursé. Et c'est là le problème. Et moi je pense que ici le gouvernement devait prendre ses responsabilités à tous les niveaux. Quand nous parlons peut-être du gouvernement, nous citons peut-être l'exécutif. Le confrère a allé jusqu'à demander même au Parlement, effectivement. À chaque fois que la question est posée, on oppose un secret de défense. Mais on n'a jamais dit que le cas où tue la population, c'est un secret de défense. Pourquoi cette population n'aura pas droit à suivre ce débat-là, de voir un ministre de la Défense, de voir un ministre de l'Intérieur, de voir les patrons des services de renseignement venir répondre même à une commission parlementaire pour dire non, pourquoi déjà n'arrive pas à donner des éléments réels sur l'assaillant. On voit dans d'autres pays, on voit des chefs d'état-major aux États-Unis venir présenter répondre aux questions aux commissions parlementaires aux États-Unis, en France, et ainsi de suite. Pourquoi nous ne ferons pas les mêmes? Nous ne sommes pas un pays exceptionnel par rapport aux autres pays.
Merci.
Donc, voilà pourquoi nous pensons que la première responsabilité ici, les gouvernements devait se dire, ok, c'est vrai, depuis telle période, j'ai mis en place telle opération, quelle est l'évaluation? Est-ce que cette stratégie a porté? Et si la stratégie n'a pas porté, comment je peux remédier pour que les tueries cessent? Tout ce que tout le monde, tout ce que la population demande, et tout ce que nous demandons, nous tous ici, tous les analystes, c'est que c'est Thierry Cess.
Merci. Nous allons écouter cette réflexion qui vient de Kinshasa pour Didier Bitaki.
Olivier Angbana, depuis Kinshasa, comment des présumés ADF peuvent agir plusieurs fois dans une zone fortement militarisée et en toute impunité? Pourquoi les pertes en vies humaines de leur côté et moins quand ils affrontent les FARDC? Sont-ils plus organisés, plus disciplinés, mieux entraînés? Je ne pense pas. Ça sent la trahison. Aussi longtemps que les intérêts égoïstes animeront nos dirigeants, l'Est de la RDC ne sera jamais en paix.
Didier Bitaki.
Merci beaucoup. On n'a pas le temps d'analyser ou donner une réponse efficiente aux Congolais qui venaient de réagir de Kinshasa tout à l'heure, mais je voudrais justement rebondir sur la question que mon frère Edgar Kambale a évoquée. Écoutez, ces opérations existent sous le nom d'opération Rwenzori dès leur départ. Et puis en 2008, on était tous plongés dans d'autres opérations à Goma vers les FDLR. Mais quand ces opérations ont été déclarées, je ne sais pas comment est-ce que c'est déclenché la succession des commandements jusqu'à nos jours. Parce que autant qu'on avance des opérations sur un terrain militaire, il arrive un moment où on s'arrête, on se dit que nous avons réussi ou nous avons échoué. A-t-on eu une évaluation concrète des opérations en cours menées depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Mais maintenant, au lieu que ces opérations produisent des résultats et que ces résultats soient portés à la connaissance de tous, parce qu'il s'agit du peuple congolais, on n'en fait rien, on reste calme. Maintenant, la question qui se pose, parce qu'on t'a refusé qu'il ne s'agit pas d'une trahison ou d'un affairisme, comme je l'ai dit ici. Donc, qui commande exactement les FARDC dans les opérations contre les ADF? Il y a combien de généraux? Quelles sont ces opérations? Où est le QG? Qui donne ordre? Qui agit pour qui et contre qui? Alors, si toutes ces questions sont clarifiées, je pense qu'on pourra savoir maintenant donner une nouvelle orientation à cela. Mais compte tenu du fait qu'à l'intérieur de ces commandements et du niveau au niveau hiérarchique, il y a ceux qui complotent. On connaît certaines choses qu'on ne sait pas exposer sur la voie publique comme ça. Mais
merci,
sinon,
Didier.
On aura le temps d'en parler peut-être autrement.
Merci.
Compte tenu de leur implication dans cette émergence de l'ADF, malheureusement, personne ne sait prendre une décision. Et je pense que le salut ne viendra ni du Rwanda, ni de l'Ouganda. Et on doit essayer d'accuser ces deux pays-là.
Merci, merci Didier Bitaki. Merci Moubert Senga, nous allons conclure. Il faut pacifier Beni, il faut mettre fin, n'est-ce pas, à cette insécurité qui sévit dans ces territoires. Qu'est-ce que vous proposez?
Alors, je vais, malheureusement, on n'a pas le temps de faire des propositions, donc je vais plutôt mentionner quelque chose qui me tient fortement à cœur, qui tient à cœur Amnesty International et tous les autres défenseurs de l'homme, c'est la répression permanente contre les gens, les habitants de Beni, les étudiants, les jeunes, les mouvements citoyens à Beni, mais aussi dans d'autres villes comme Goma, comme ailleurs, comme Kananga, qui manifestent contre ces manifestations, ces massacres continus et qui sont réprimés. L'armée, la police qu'on ne voit pas en train de chasser les ADF ou les soi-disant ADF est là pour réprimer la population. Cela doit cesser. Donc je profite de votre micro pour m'adresser.
Ne permet pas de consolider, n'est-ce pas, la cohésion nationale.
Mais justement, c'est une aberration grave. Et on parle du soutien, l'autre parlait du soutien de la population. Comment voulez un soutien d'une population sur laquelle vous tirez? Donc le maire Nyoni, le gouverneur Julien Paluku et le colonel, le commandant de la police, le commandant Safari, ils doivent arrêter de tirer sur les manifestants à Beni et ailleurs.
Maître Nixon Kambale, c'est quoi la solution par rapport à Beni?
La solution est simple, c'est que d'abord, c'est que le gouvernement doit repasser sa politique de défense. Et ici, évidemment, ça repose la question de la réforme du secteur de sécurité. Depuis que la réforme de sécurité est là, on voit évidemment qu'il y a des défis majeurs auxquels on n'a pas répondu. Et de deux, c'est que, malheureusement, on n'a pas tout le temps, c'est que pendant que nous sommes de parler, Oïcha est sous le bal, et à Beni, ça crépite encore, donc tu vois le problème. Donc, voilà pourquoi je pense que l'autre solution, c'est de voir comment intermédiaire, relever d'abord les troupes qui sont là.
Merci Didier Bitaki. Un mot, il faut pacifier Beni.
Je pense que la solution à ce problème est que ces opérations, soi-disant opérations en cours, doivent être arrêtées et évaluées qu'il faut les relancer, c'est sous une autre forme. Ensuite, le massacre des populations.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.